Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et on s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits du yoga, né il y a plusieurs millénaires en Inde et codifié par Patanjali au 1er ou au 2e siècle de l'ère chrétienne. C'est une pratique qui allie corps et esprit. Partout dans le monde, le yoga connaît un engouement qui ne se dément pas. Au moins 35 millions d'adeptes aux États-Unis, au moins 2 millions en France. Difficile de se retrouver dans la jungle des yogas, il en existe une infinie variété. Et certaines pratiques dangereuses dévoient l'essence du yoga. Le yoga qui reste avant tout un moyen de faire circuler la vie qui est en nous. Et ce n'est pas forcément une série d'acrobaties qui fait suer comme un bœuf avec des risques de traumatisme à la clé. Nous verrons donc quels sont les bienfaits reconnus du yoga, comment trouver un cours sérieux, quelles sont les contre-indications. Pour nous éclairer, les médecins Lionel Coudron et Jocelyne Borel-Cunner et la professeure de yoga Isabelle Morin-Larbé. Mes complices aujourd'hui, Aline Perraudin et Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
La vie moderne étant ce qu'elle est, on pourrait croire les pauvres citadins voués à une perpétuelle surexcitation nerveuse. Il existe pourtant un remède, vieux du reste comme le monde, capable de sauver de leur insomnie les victimes du siècle de la précipitation. Regardez bien cet homme, ne croyez pas qu'il marche comme vous et moi. Il rythme sa respiration sur ses pas, il contrôle chacun de ses mouvements, il pratique le Hatha Yoga. Voilà le grand mot lâché. 800 postures permettent de contrôler et d'éduquer le moindre muscle, le moindre élément du corps humain. Citons le Parvottana, autrement dit la chandelle, qui a pour vertu particulière de faciliter l'élocution. Le Viparitakarini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. Autant de poses qui sont autant de recettes à chacune des complications, des difficultés de notre vie agitée. Tout peut être résolu, même le trac. Saluons donc aujourd'hui les vertus séculaires, hautement calmantes, du Hatha Yoga.
Les actualités françaises en 1964, toujours d'actualité, avec nous pour évoquer les bienfaits du yoga en partenariat avec le mensuel Santé Magazine, le docteur Lionel Coudron, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez le yoga depuis plusieurs décennies, vous êtes cofondateur de l'Institut de Yoga-Thérapie et vous avez notamment publié chez Odile Jacob la Yoga-Thérapie. Bonjour docteur Jocelyne Borel-Cunner.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste et vous avez ouvert une consultation de yoga-thérapie à l'hôpital Simone Veil d'Aubonne dans le Val-d'Oise. Bonjour Isabelle Morin-Larbé.
Bonjour.
Vous enseignez le yoga et vous êtes présidente de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga. Alors première question, qu'est-ce que le yoga ? L'étymologie du mot yoga, c'est unir, réunir, relier, Isabelle Morin-Larbé ?
Oui, oui, tout à fait. C'est Yug qui nous a donné le joug. Le joug pour amener deux animaux à travailler ensemble, en fait, c'est une idée de rythme et de permettre en fait au corps et à l'esprit de marcher ensemble, de se réunir et d'allier ce qui semble opposé au centre et en devenant complémentaire.
Docteur Lionel Coudron, c'est quoi le yoga ?
Le yoga, c'est cela. C'est une méthode qui nous permet de nous relier à nous-mêmes déjà, de nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que bien souvent, on est un peu en combat. Nous relier à ce moment-là également à la vie, avec les autres, avoir plus de confiance en soi pour avoir plus de confiance dans les autres et dans la vie.
Le yoga revêt-il un caractère religieux ?
Certainement pas. Ça l'a été pendant longtemps, c'était lié à une culture, mais depuis maintenant quelques siècles, je dirais, le yoga s'est dissocié de la religion et le premier ouvrage que vous avez cité tout à l'heure était justement en dehors de la religion. C'était le premier ouvrage laïque sur le yoga qui permettait en quelques 194 aphoris, 194 lignes, de pouvoir clarifier ce qu'était la méthode du yoga.
Alors il existe des dizaines de formes de yoga, je pense au Hatha Yoga, au yoga Ashtanga, au Bikram Yoga, au yoga Vinyasa. Alors j'avoue que je m'y perds un petit peu, Isabelle Morin-Larbé.
Tous les yogas que vous venez de citer, c'est du Hatha Yoga. Hatha Yoga, c'est le yoga du corps et du souffle. A, c'est le soleil, et Ta, c'est la lune. Donc la réunion donc des opposés hein, qui rythme la vie de chacun. Et à l'heure actuelle, il y a une sorte de morcellement du yoga, en fait, pour essayer de faire du neuf. Mais le travail du corps et du souffle, c'est le Hatha Yoga. En fait, vous avez cinq yogas principaux. Vous avez le yoga de la connaissance, qu'on appelle le Jnana Yoga. Le yoga de l'action au quotidien, qu'on appelle le Karma Yoga. Le yoga de la dévotion, parce qu'il y a quelque chose aussi dans le yoga qui est une idée de restituer ce qu'on a appris et senti au monde. Donc c'est ça, hein, cette dévotion-là, c'est à la vie, à l'énergie de vie. Et puis donc le Hatha Yoga. Et puis l'ensemble fait le Raja Yoga, c'est-à-dire pour être yogi, en fait, c'est cette idée d'allier tous ces aspects en fait de la personnalité.
Alors il y a un yoga très à la mode en ce moment, c'est le Bikram Yoga. C'est quoi ça?
Alors le Bikram Yoga a été inventé entre guillemets par un Chaudhuri Bikram, qui était un haltérophile du sud de l'Inde, et il a proposé de pratiquer des postures en fait dans un sauna à 40 degrés.
C'est un peu controversé. Hein.
Bah c'est très controversé à juste titre pour certaines choses, c'est-à-dire que il faut absolument vérifier si les personnes sont en bonne santé. Je veux dire que si vous avez un cardiaque, un hypertendu ou un spasmophile qui va faire des pratiques pendant 2 heures d'affilée, enfin. Je pense que le Bikram a été un peu, je dirais, pensé d'une certaine façon. Et très vite, je pense qu'il y a quelque chose qui va bloquer ou en tout cas s'arrêter dans la progression des gens pour aller vers autre chose.
Docteur Coudron, quelle est la forme de yoga la plus pratiquée en France ?
Alors, en France, il y a une tradition du yoga qui remonte à plusieurs décennies, à partir des années 50, et vous l'avez entendu tout à l'heure, vous avez passé un petit jingle qui était déjà en 64 sur vos ondes. Il y a donc une tradition, un yoga qui s'est très très bien implanté, et plusieurs formes existent, plusieurs formes cohabitent, parce que justement, les fédérations ont eu cette intelligence d'associer différentes pédagogies. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a beaucoup de pédagogies différentes qui montrent en fait la vivacité de cette pratique du yoga, qui n'est pas uniforme, il n'y a pas une tyrannie, il n'y a pas une pédagogie qui a le dessus sur les autres, mais il y a une multitude d'abord de manières de faire, de pratiquer. Alors depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, il y a une influence très forte des États-Unis. Vous savez, c'est un peu comme la pizza. La pizza, elle est passée par les États-Unis, elle est revenue en France. Eh bien, c'est la même chose. Le yoga est passé par les États-Unis et revient un petit peu inonder l'ensemble de la planète avec une méthodologie qui n'est pas nécessairement la méthodologie traditionnelle française qu'on a mis en place il y a une trentaine d'années à travers la Fédération nationale des enseignants de yoga. Et du coup, je dirais, il faut être attentif à ce que ce yoga ne soit pas uniquement dans la compétition. Et c'est un petit peu ce que l'on peut voir se développer aujourd'hui, je dirais malheureusement, parce que ce n'est pas l'idée du yoga.
Docteur Jocelyne Borel-Kuner, quelle est l'idée reçue sur le yoga qui a tendance à vous agacer prodigieusement ?
Prodigieusement, en particulier dans le yoga que je pratique le plus au quotidien, c'est-à-dire à l'hôpital, vous pouvez toujours aller à cette consultation ou pratiquer du yoga. À défaut de vous faire du bien, ça vous fera pas de mal. Donc ça, je crois que c'est l'idée reçue qui m'irrisse un peu le poil.
Isabelle Morin-Larbé.
Traîne encore un petit peu l'idée, tu te mets sur la tête et tu as une planche à clous. Ça reste encore, hein. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Hein.
Lionel Coudron.
Alors, moi, ce qui effectivement m'agace prodigieusement, c'est de penser que le yoga sont des postures compliquées. Et que du coup, ça bloque les personnes. Elles se disent, c'est pas pour moi. Alors que ce n'est pas vrai. Le yoga, c'est des exercices très simples. Parce que c'est pas ce que l'on va voir qui est important. C'est la façon dont on va le pratiquer. Et tout geste qui va être conscient, associé à une respiration, devient du yoga.
Question de vocabulaire, c'est quoi un asana ?
Asana, c'est la même racine étymologique que le mot assise. C'est l'axe, c'est le fait d'être droit, de se tenir dans son assiette, dans son axe, dans sa verticalité. Donc l'asana, c'est la posture de yoga.
Bonjour Odile.
Oui, bonjour Ali.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Vous habitez à Brétigny-sur-Orge et je crois que vous pratiquez le yoga depuis 5 ou 6 ans et ça a changé votre vie, paraît-il.
Oui, tout à fait. J'ai découvert le yoga par l'intermédiaire d'une amie. Après une opération du dos, donc j'ai dû arrêter quand même la gym qui était un peu trop violent. Et je me suis mise au Qigong et au yoga par la suite. Et c'est vrai que j'ai découvert c'est pas un sport, mais j'ai découvert quelque chose et je m'en porte très très bien.
Qu'est-ce que vous avez découvert, Odile ?
Eh bien, j'ai découvert que c'était vraiment une matière importante. Enfin, on travaille bien pour le corps, on travaille la respiration et ça, c'est très très important. J'ai l'impression d'avoir découvert mes capacités pulmonaires, une grande relaxation aussi. On fait des exercices qui font relâcher quand même la tension et qui qui font beaucoup de bien. Je pense que beaucoup de gens qui sont très stressés devraient pratiquer le yoga.
Et vous avez ressenti des bienfaits au niveau des articulations, de douleurs éventuelles?
Oui, oui.
Et au niveau mental également?
Oui, au mental, oui. Alors en plus, bon, moi j'ai la chance d'être dans un cours où on pratique les mantras, on chante. Ça fait un bienfait pour le corps, pour tout, pour l'esprit. Et je suis dans un groupe où il y a des femmes, des hommes. On s'entend bien en plus et c'est très 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 sympa. Donc voilà, moi j'ai ressenti beaucoup de bienfaits, j'y vais avec plaisir et j'évite de manquer mes cours de yoga parce que ça me fait beaucoup de bien. Je me sens bien détendue et le corps travaille.
Docteur Coudron.
Énormément.
Oui, mais alors ce qui me fait très plaisir dans ce que on entend là, c'est que justement à tout instant, on peut redécouvrir des choses très simples dans son corps. Et c'est ce que moi j'entends, c'est ce que je comprends à travers cette expérience, c'est d'arriver à se retrouver soi-même, de retrouver des choses simples. Je respire profondément, je peux être bien dans mon corps, je peux me sentir bien dans ma tête. Alors bien sûr, comme c'est un ensemble, il y a une notion fondamentale, c'est que le corps et l'esprit sont liés, que la posture induit également un état d'esprit et que lorsqu'on peut libérer ses articulations de tension, de crispation, ses muscles de contracture, eh bien on va tout de suite se sentir mieux dans sa peau, dans sa tête et dans son cœur. Et ça, c'est vraiment ce qu'on en a entendu là.
Merci beaucoup Odile de nous avoir appelé. Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour Aline.
Directrice de Santé Magazine. Alors vous intervenez à votre guise tout au long de cette émission. Vous avez consacré un papier sur les postures du yoga qui soignent.
Oui, on voit que de plus en plus d'études médicales prouvent les bienfaits du yoga, notamment sur le mal de dos, l'hypertension, les maux de ventre, enfin beaucoup de maux fonctionnels ou pas d'ailleurs.
La joie intérieure qui émane de son léger sourire façon Mona Lisa irradie dans le studio Thibaut de Saint-Maurice et sa petite philosophie de la vie quotidienne.
Concentrez-vous sur votre respiration.
Grand bien vous fasse.
Mais à quoi est-ce qu'on joue ici?
Je vous laisse à vos méditations.
Et on se tait
sur France Inter.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Maître
Ali. Vous avez passé un bon week-end?
Ouais, ça va plutôt. Bon.
Alors ce matin, vous vous intéressez à ce que respirer veut dire.
Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple, comme ceci. 1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause, 1, 2, 3, expiration, et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas.
Extrait donc des randonneurs avec Benoît Poulvord dans le coach hein, pour apprendre à respirer et à marcher. Alors c'est un peu ridicule parce que aussi ça attire notre attention sur ce que nous faisons la plupart du temps sans nous en rendre compte, c'est-à-dire respirer. Alors commençons par l'évidence, hein, la respiration c'est un de ces processus physiologiques par lequel nous sommes en vie et il est strictement indispensable, voilà, la porte ouverte est enfoncée. Et comme cette vie qu'elle rend possible, nous découvrons cette respiration en nous et nous découvrons toujours déjà respirant et nous connaissons continuant toujours de respirer jusqu'à comprendre finalement que nous ne pourrons jamais nous connaître ne respirant pas.
Mais le plus étonnant Thibaut, c'est que la plupart du temps, nous n'y pensons pas.
Oui c'est vrai, la plupart du temps la respiration est en nous mais sans que nous soyons nous présents à notre respiration et nous respirons donc sans le vouloir spécifiquement, sans que nous l'ayons décidé. Entendons qu'elle exprime la vie de notre corps, la respiration constitue ce fond d'involontaire sur lequel se développe notre existence et que le philosophe Paul Ricoeur décrit dans sa philosophie de la volonté comme ce sur quoi justement notre volonté repose. Parce que nous ne partons pas de zéro. Notre vie consciente, notre volonté, nos actions, nos projets ne sont pas des créations pures. Nous commençons dans l'involontaire, nous commençons par nous recevoir de nous-mêmes et toute l'histoire de notre existence consiste à assumer cet involontaire pour pouvoir à partir de lui, étendre le domaine du volontaire et donc de notre liberté.
Mais comment devient-on ainsi l'allié de sa respiration?
Eh ben, apparemment, c'est pas évident, hein, parce que la respiration ne se laisse pas maîtriser totalement, au sens où on ne peut pas décider de ne plus respirer ou de respirer, par exemple, juste toutes les heures, ou bien de ne respirer que le matin et pas l'après-midi. La maîtrise à laquelle nous invitent donc diverses pratiques et techniques de respiration est une maîtrise d'un genre particulier, donc comme le yoga. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ces pratiques, mais de ce que j'en comprend, il s'agit d'abord de retrouver la conscience de sa respiration en y portant une attention redoublée, vouloir respirer pour ne pas que cette respiration ait lieu sans nous. Alors c'est ce que Ricoeur, là encore, décrit sous l'ordre du consentement, de l'adhésion, de l'engagement auprès de soi. Et c'est une façon de faire basculer l'involontaire du corps dans le volontaire de l'esprit. C'est une sorte de conversion un peu magique qui est pourtant le lieu concret de notre liberté. Parce que la réalité de notre liberté, ce n'est pas de pouvoir tout vouloir, mais de convertir petit à petit, par un patient travail sur soi, de l'involontaire en volontaire.
Et puis Thibault, respirer, c'est aussi une certaine façon d'être au monde.
Mais oui, parce que tout simplement, l'inspiration et l'expiration sont en fait les deux dimensions de notre rapport au monde. Il y a ce que nous assimilons du monde, ce que nous prenons à l'intérieur de nous, et puis ce que nous expirons, ce que nous rejetons à l'extérieur de nous. En fait, à chaque respiration, nous nous délimitons d'avec le monde. D'un côté le monde, l'extérieur que j'incorpore, et de l'autre côté moi-même, cette intériorité que j'extériorise. La respiration n'oppose l'intérieur et l'extérieur finalement que pour mieux nous permettre d'échanger. Voilà, l'essentiel est sans doute là, hein, quand nous portons attention à notre respiration, nous transformons ni plus ni moins la nature en liberté.
Commentaire autour de la table de nos yogis, Isabelle Morin-Larbé.
Oui, c'est tout à fait juste, hein, avec vos mots de philosophe. Mais le principe du yoga, c'est travailler la respiration. Et j'ai envie de vous dire, lorsque vous expirez, vous donnez de vous. Et lorsque vous inspirez, vous recevez de vous. Et le souffle, la respiration et l'air, c'est ce que nous partageons avec toute l'humanité. Donc ça nous met dans un lien extraordinaire. Et je dis souvent, en fait, nous ne vivons que parce que nous sommes traversés par quelque chose dont nous ne serons jamais propriétaires. Et c'est ça qui est très très beau en fait, hein, cette idée de passage. La tradition indienne dit qu'on a un certain nombre de respirations lorsque nous naissons. Et justement, l'idée d'étirer ces respirations, c'est de pouvoir vivre le plus longtemps possible en relation, mais que c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais posséder et nous n'aurons jamais la main dessus, ce qui veut dire que nous ne sommes pas les maîtres du monde.
On s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits du yoga sur notre corps et sur notre esprit.
Madonna interprétait Hung Up.
On vide son sternum et on ouvre bien grand les chakras. Encore un dernier ion. Ion.
Grand bien vous fasse.
T'as complètement déstabilisé Charlotte. Elle a au moins 6 chakras de refermés.
Ça va, toi l'escroc, te mêle pas de ça, sinon je vais te les refermer, tes chakras, ça va être vite fait.
Sur France Inter.
On s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits du yoga sur notre corps et sur notre esprit. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise, vous appelez de Nice. Bienvenue dans Grand bien vous fasse.
C'est gentil, merci.
Alors vous pratiquez le yoga depuis une quarantaine d'années?
J'ai 84 ans. J'ai commencé, j'avais 44 ans. À l'époque, j'avais une villa avec un grand sous-sol. Mm-hmm. Et j'avais organisé avec des amis un cours collectif. On faisait venir un professeur de hier dans le Var. Mm-hmm. Et une fois par semaine, on avait un cours de yoga. Voilà. Et après, donc... Ça se fait déjà un petit moment, bien sûr. J'ai continué. J'ai même rencontré Maître de Shimaru. J'ai fait du zazen, des séchines de zazen avec lui. Et j'ai pratiqué depuis donc 40 ans, quotidiennement. Et alors maintenant, tous les jours, je fais la respiration, la posture droite. Pour m'endormir, je détends chaque muscle depuis la pointe des pieds jusqu'au crâne. Mm-hmm. Et je respire à fond. Quand j'ai un problème, un souci quelconque pour me détendre, je respire et je prends la posture droite et je respire où que je sois, dans une file d'attente où je m'énerve, que je sois dans une salle d'attente chez un médecin, là, pour me décontracter, pour être bien.
Et quel a été le déclic, Françoise, à 44 ans? Qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer le yoga?
Écoutez, je me souviens plus très bien, à tout vous dire. Bon. Je pense que c'est parce que j'en avais entendu parler. C'était à la mode à l'époque. C'était le début. Ouais. C'était le début, mais on en parlait beaucoup. Et puis, peut-être qu'avec des amis, on a voulu organiser un cours, voilà.
Françoise, j'entends des cloches de vache derrière. C'est...
Ah non, parce que je suis en train de peindre en même temps une potiche.
D'accord. Je pensais que c'était un troupeau de vaches qui vous entourait, Françoise. Docteur Coudron, sur la pratique de Françoise.
Mais écoutez, il est vrai que pour ce qui, en général, motive le début d'une pratique de yoga, pour 70% des pratiquants, c'est quand même des raisons de santé, de troubles, de douleurs physiques, lombaires, de problèmes digestifs, de maux de tête. Donc peut-être que c'était une volonté d'aller un petit peu mieux pour une raison ou pour une autre à cette époque. Après, ce que l'on retrouve à nouveau dans cette pratique de Françoise, c'est encore une fois, et j'insiste dessus justement, sur cette simplicité.
La simplicité.
Sur le fait de retrouver son souffle et cette respiration. Et je rappelle que l'être humain est le seul animal à pouvoir justement contrôler cette respiration. C'est donné à aucun autre animal. Et la relation extrêmement intime entre la fréquence respiratoire, l'amplitude respiratoire et l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Donc ce n'est pas par hasard si le yoga a fait une de ses spécialités le travail sur le souffle, parce que contrôler ce souffle, accompagner ce souffle, c'est pouvoir justement modifier, accompagner les différents états que l'on retrouve. Et tout à l'heure vous parliez du trac, eh bien toutes les techniques anti-trac, anti-stress, utilise le travail sur le souffle.
Merci beaucoup Françoise de nous avoir appelé de Nice. Alors Lionel Coudron, qu'est-ce que la yoga-thérapie que vous défendez? Et puis plus largement, quels sont les bienfaits scientifiquement avérés de la yoga-thérapie?
Alors depuis un siècle à peu près, on a voulu essayer de comprendre ce qui se passait dans le yoga. De nombreuses études ont été faites et alors depuis 15 ans, c'est l'explosion. Depuis 15 ans, on sait intuitivement que le yoga est bénéfique puisqu'on lui prête des exploits extraordinaires. Alors à défaut d'exploits extraordinaires, ça permet de justement retrouver un équilibre de santé. Ça permet de rééquilibrer un système important qui est le système neurovégétatif, automatique justement, qui va permettre de rééquilibrer le système sympathique-parasympathique, de rééquilibrer du coup la pression artérielle, la respiration, la fonction digestive, les tensions musculaires. Donc tout ceci amène un nombre de bénéfices importants. Et la yoga-thérapie, c'est l'application du yoga à la santé pour des personnes qui ont justement un trouble spécifique dont ils voudraient bien pouvoir le gérer autrement que par toutes ces méthodes qui aujourd'hui sont un peu à controverse.
Docteur Coudron, si je vous ai bien lu, quand on pratique le yoga, on contribue à éliminer les obstacles au bon fonctionnement de notre corps?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va permettre aux ressources de notre propre corps de se libérer et de retrouver un équilibre pour lequel il est fait avant toute chose.
Docteur Jocelyne Borel-Cunner, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir une consultation en yoga-thérapie à l'hôpital d'Aubonne dans le Val-d'Oise?
C'est une pratique personnelle, une découverte. Je ne pratiquais absolument pas de yoga.
Vous avez commencé il y a 5-6 ans, c'est ça?
J'ai commencé il y a 5-6 ans parce que je m'intéressais à la prise en charge de la douleur depuis plusieurs années avec des collègues médecins urgentistes. On avait fait une étude nationale et on était confrontés toujours aux mêmes échecs, en tout cas aux limites, en tout cas de soulagement des patients. Et je pensais qu'il y avait une compréhension qui n'était pas évidente dans notre manière de penser, nous les médecins, nous les soignants. Et je me suis attachée à essayer de trouver une formation qui puisse me donner un autre point de vue. Et totalement, quoique bien que le hasard n'existe pas, je suis tombée sur une formation en yoga thérapie alors que je ne faisais pas de yoga.
Ça a été simple d'ouvrir cette consultation à l'hôpital?
Oui, très simple.
Et ça vous a étonné justement que
ça soit aussi simple? Ça m'a complètement étonné. Ça a été très simple, c'est mes collègues qui m'ont incité quand je leur en ai parlé. Ils m'ont dit, c'est quoi la yoga-thérapie? J'aurais dit, je ne savais pas trop moi-même ce que c'était, mais je pense que ça peut traiter les patients douloureux. Ils m'ont dit, il faut ouvrir une consultation, et c'est ainsi que je l'ai ouvert. Et là, je me suis formée quand même, vraiment.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Oui, on voit de plus en plus d'ateliers de yoga, et le yoga devient un soin de support, et c'est souvent le chef de service qui peut décider d'enseigner, pratiquer le yoga dans son service. Et il y en a de plus en plus, on le voit notamment sur le mal de dos, il y a des réentraînements à l'effort avec du yoga. Et je trouve que vraiment ça se déploie aujourd'hui.
Docteur Coudron, la pratique du yoga montre que notre corps et notre cerveau détiennent la faculté de fabriquer des substances dont il a besoin pour se soigner.
Oui, on dispose de façon théorique toutes les substances dont on a besoin pour... comme anti-inflammatoire, comme antalgique, comme euphorisant, comme anxiolytique, comme hypnotique. Bien évidemment, tout notre corps a cette capacité. Mais il va en être empêché parce que on va être dans un état de tension permanente, de vigilance, de crispation. On va avoir des mauvaises postures, on va avoir des mauvaises habitudes d'hygiène de vie, de rythme. Et ça, je voudrais en profiter pour insister sur une notion aussi importante. C'est que le pratiquant de yoga va se retrouver face à lui-même et va être plus apte et plus sensibilisé à une hygiène de vie. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus couper le yoga du reste du monde.
L'alimentation.
De la même façon, toute activité physique aussi va nous sensibiliser à une meilleure hygiène de vie. Respecter ses rythmes de sommeil, avoir une meilleure alimentation, une activité physique sont autant d'éléments qui sont essentiels et qui font que l'individu n'est pas coupé et n'est pas parcellé en mille morceaux.
Isabelle Morin-Larbé, que se passe-t-il dès la première séance de yoga? Quand par exemple j'enchaîne avec lenteur une série d'étirements synchronisés à la respiration, tout en étant conscient de ce que je fais?
Il y a une modification de la relation au temps et à l'espace. Temps et espace sont vraiment liés. Donc en ralentissant en fait le souffle, mais en respectant le rythme de la personne et en lui en proposant des postures qui lui sont adaptées, on va modifier cette relation au monde. Et il y a quelque chose en fait qui se fait aussi par la qualité de présence, c'est-à-dire que être yogi, c'est être conscient de son corps, de son mouvement, de sa respiration et de l'attention qu'on y porte. Et c'est les trois points essentiels, les trois points clés dans la pratique. Et évidemment, comme on modifie l'espace thoracique, on va prendre conscience de son souffle, de ses membres. On modifie aussi cette idée de présence au corps qui fait qu'il n'est plus morcelé, mais qu'il est unifié. Et ce dont souffrent vraiment les gens à l'heure actuelle, c'est de pas avoir de place, d'être tout le temps tiraillé à droite et à gauche, d'être morcelé. Et ça permet une unité très simple, en fait, vraiment.
Docteur Coudron, le secret est de ne pas savoir si c'est la respiration qui initie le mouvement ou si c'est le mouvement qui inspire la respiration.
Oui, je crois effectivement que c'est vraiment cela, l'essence même, c'est-à-dire qu'il y a une unité. Et du coup, on ne sait plus qu'est-ce qui débute. Est-ce que c'est le mouvement ou la respiration? Donc, il y a vraiment une cohérence, une cohésion, une unité de ces différents éléments qui nous composent. Mais tout cela, ce ne sont que des points d'abord pour modifier l'état dans lequel on est. C'est-à-dire, ça, ce sont des prétextes. Travailler son corps, travailler la respiration, travailler ses pensées pour transformer un état, un être. Et quand on est bien, à ce moment-là, automatiquement, le corps va le répercuter par une sensation de bien-être. On va sécréter les substances adéquates.
Bonjour Véronique.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Vous appelez de Crozet, c'est ça?
Oui, dans l'Ain.
Alors, vous avez commencé le yoga après avoir été malade.
Oui, tout à fait. Voilà, ben j'avais 42 ans et donc quand j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. Et nous vivions à l'époque en Californie où mon mari travaillait et contre toute attente, mon médecin traitant, face à mon état de douleur lié à la chimiothérapie, au traitement et aussi mon état psychologique, m'a conseillé de pratiquer le yoga. Et donc j'ai trouvé un cours dans un YMCA à côté de chez nous où se pratiquait du yoga avec en famille, avec les enfants. Alors mon fils qui avait 10 ans n'a pas voulu se joindre à nous, mais j'y suis allée avec mes filles qui avaient 7 ans et 9 ans à l'époque. Et ça m'a fait un bien mais énorme et à elles aussi. Et donc au niveau, alors c'était vraiment avec les enfants. Et donc quand je suis rentrée en France 2 ans plus tard, je me suis inscrite à des cours. Et là, pour rien au monde, je n'arrêterai. Ça fait 8 ans maintenant et pour moi, c'est vraiment un bien-être. Ça m'apporte un bien-être vraiment important. Et vraiment, quand les vacances scolaires arrivent, je suis triste parce que le cours s'arrête et ça me manque.
Et voilà, j'espère donc que vous allez bien, Véronique, aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Parfaitement.
Docteur
voilà, mais au niveau de la respiration, c'est également quelque chose que j'ai découvert. Et par exemple, quand j'ai un état de stress, pratiquer certains exercices de respiration, et je l'ai même transmis à mes enfants quand ils passent des examens. Ils sont maintenant lycéens, étudiants. Avant de démarrer un examen, je leur dis, vous faites la vague, cette respiration qui va de haut en bas et de bas en haut pour vous détendre. Et voilà, ils pensent à moi à ce moment-là et j'espère que c'est bénéfique pour eux.
Docteur Jocelyne Borel-Cunner, sur ce que vient de nous dire Véronique.
Oui, bah c'est tout à fait, ça me ramène à mon quotidien. J'ai beaucoup de patients et de patientes qui, bien sûr, de fait, viennent au yoga. Peut-être, mais d'abord à la consultation de yoga-thérapie pour des problèmes de santé. Et au début, je pensais faire des problèmes pas trop graves. Et ce sont souvent des patients qui ont énormément de difficultés. Et effectivement, le souffle est très important parce que ça permet de mobiliser tous les espaces du corps presque sans bouger. Le souffle lui-même est mobile et fluide. Et c'est cette énergie du souffle qu'on utilise beaucoup en yoga-thérapeutique, en tout cas que j'utilise au sein de mes consultations.
Merci beaucoup Véronique de nous avoir appelé de Crozet. On s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits du yoga sur notre corps et sur notre esprit.
De la base au sommet, il n'y a que quelques phrases. Je fais mine comme tout le monde de croire que ce qui compte, présenter en façade, même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade. Homme ou femme, je ne vois caché derrière un mur. Je nous vois unanimes, multiples pseudonymes. Je fais mine de mille feux m'illuminer, même si juste derrière, sans doute des déserts. Ces voix anonymes pour dissiper le spleen. Je nous vois unanimes, multiples pseudonymes. Je me fie aux apparences, même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade. À l'unisson, je fais illusion, je ne fais allusion
Jérôme Minière, interprété Cascade.
Excuse-moi, Steph, mais j'appelle Maître Dong. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce qu'elle a qui se referme ?
Les chakras. Les points d'entrée des énergies cosmiques.
Sur France Inter.
Spécial, tes gonzesses. Hein.
On s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits du yoga. Docteur Coudron, dans la pratique de la yoga-thérapie, il est nécessaire de ne pas se faire mal. Primum non nocere, comme le disait Hippocrate. Si, par exemple, un prof de yoga demande à un novice des postures acrobatiques, on prend ses jambes à son cou.
Alors, si vous mettez vos jambes derrière votre cou, vous avez suivi ce qu'a dit votre prof et c'est pas ça. Oui, alors non. Effectivement, la première des consignes du yoga, mais ça depuis 2000 ans, c'est pas que la yoga-thérapie, c'est ne pas se faire mal. Parce que si on se fait mal, comment voulez-vous vous faire du bien ? C'est impossible. Donc le premier des postulats, c'est de ne pas se faire mal. Et après, effectivement, on a accès à la possibilité de se faire du bien.
Isabelle Morin-Larbé.
Oui, bah absolument. Ce premier principe des Yoga Sutras de Patanjali, vous avez évoqué
le grammairien et philosophe indien, oui, au premier, deuxième siècle après Jésus.
Alors entre moins 2, plus 2. Ouais, voilà, ouais. C'est pas bien sûr. Hein.
On n'est pas très sûr.
Non. Mais comme toujours, ces grands textes, ce sont des. Voilà, on dit que c'est une personne, mais évidemment, c'est un ensemble de penseurs. Et voyez bien, c'est un grammairien et un professeur de yoga parce que c'est l'art de l'articulation, la fluidité du langage qui marche avec la fluidité de l'articulation du corps, savoir se mouvoir aussi bien par la langue que par le corps. Et le premier principe, c'est ne pas nuire, Ahimsa, demande en fait justement une présence. Où est ma limite ? Il n'y a pas de compétition dans le yoga, c'est pas un sport justement. Donc c'est de progresser vers une limite que l'on va apprivoiser, ne jamais dépasser, d'où l'importance aussi d'une conscience, d'une présence à l'instant. Autrement, effectivement, vous pouvez vous faire mal et vous n'êtes plus en yoga.
Docteur Coudron, le yoga, c'est un engagement et pour bénéficier à long terme de ses bienfaits physiques, psychiques, spirituels, il est nécessaire de s'entraîner régulièrement.
Alors oui,
d'être assidu.
C'est un entraînement, exactement. Et c'est un entraînement qui nécessite une pratique, mais pas aussi intense qu'on pourrait l'imaginer. Ça fait partie des autres idées reçues sur lesquelles on se bat. On n'a pas besoin de devenir un professionnel du yoga pour en avoir des bénéfices. Il suffit de pratiquer un petit peu tous les jours. On peut pratiquer 5 minutes tous les jours. La plupart des études qui ont été faites ces 15 dernières années sont basées sur à peu près, on va dire, une fréquence de 3 heures par semaine, ça veut dire 20 minutes par jour, et en 6 semaines, on a déjà des résultats. C'est ça qui est extraordinaire.
Non, mais le cours a commencé il y a 20 minutes.
Ah, d'accord. Mais moi, une demi-heure, ça me suffit. Hein. On peut reprendre depuis le début, comme j'ai raté.
On a quand même l'air très con, non ?
On garde la jambe avant
et inspire. Dalai Lama, j'ai une crampe. Mais vous faites quoi ? Vous mangez des graines et genre vous buvez votre pipi et tout ça ?
Non, pas spécialement.
C'est la position. C'est la levrette, ça ? On l'appelle la levrette ?
Comment ça va, là ?
Hein ?
T'arrêtes un peu ?
Bah quoi ?
T'as 15 heures de retard, t'arrives au bouffon, tu fais des conneries.
Ah, le yoga, ça rend pas très très cool, en fait.
Un extrait de la pastille humoristique La Connasse de Camille Cotin qui m'a un jour piégé dans le métro. Est-on obligé de suivre des cours dans un studio de yoga ? Il y a un message d'Adeline sur notre page Facebook qui nous dit « J'écoute votre émission sur le yoga et ses bienfaits dont je ne doute pas, mais vous faites l'impasse sur un point très important, le cou. Suite à un lumbago et face à des problèmes d'anxiété chronique, j'ai voulu prendre des cours de yoga, mais étant étudiante, j'ai été rebutée par le coût des leçons de l'ordre de 250 à 300 euros par an en MJC ou des cours à l'heure avec une prof particulière, 20-25 euros de l'heure, Isabelle Morin-Larbé.
Alors, là, le tarif des cours de yoga, il est très très varié. J'enseigne dans le sud de la France, dans un village, les 5 cours possibles, c'est 155 euros par an. Donc, c'est vraiment l'adaptation. Et quand on a des étudiants, je suis aussi donc en libéral, on propose, on dit est-ce que ça vous va, est-ce que ça ne vous va pas. Bien sûr que les tarifs, ils sont complètement modulables. Et des personnes qui ont les moyens vont payer le prix classique, ce qui vous permet ensuite, vous, de proposer des cours complètement adaptés aux personnes qui sont alors soit étudiantes, soit en difficulté financière, évidemment.
Si on pratique chez soi, d'un point de vue très terre à terre, quel est le matériel nécessaire, docteur Coudron ?
Alors, on a justement l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Il suffit d'un tapis et d'une tenue souple pour pouvoir pratiquer. Mais je crois que ce qui a évolué aussi dans le yoga, c'est justement la pratique en groupe. C'est pas négligeable de se retrouver ensemble. C'est quelque chose aussi de très bénéfique et très porteur. Vous savez, l'étymologie du terme compétition, c'est pas se battre les uns par rapport aux autres. C'est pratiquer ensemble comme pétérer. Eh bien, c'est ça l'esprit du yoga. C'est aussi pratiquer ensemble pour pouvoir échanger. Et c'est très bénéfique également.
Allez, question par courriel. Le yoga permet-il de soulager les douleurs du dos? Docteur Coudron, Waline Perraudin de Santé Magazine.
Oui, oui, il y a des études qui ont montré que ça permettait de réduire les douleurs de dos. D'ailleurs, on revient beaucoup sur la façon de soigner le dos. On sait qu'il faut se remettre en mouvement et on voit que l'effet, au contraire des médicaments, est pas très très fort. Donc, se remettre en mouvement, et là, avec ce mouvement conscient, on joue sur aussi l'anxiété, le stress, qui peut être une des causes du mal de dos.
Docteur Coudron, le yoga permet de mettre fin au cercle vicieux, douleur, appréhension du mouvement, oui. Enraidissement et donc aggravation du mal de dos.
Exactement, parce que ça va faire un cercle vertueux à l'inverse, puisque dans la lombalgie chronique, on a deux éléments qui sont la raideur, donc il faut absolument travailler sur le corps, on ne peut pas se contenter de faire des incantations, j'ai plus mal, il faut que l'articulation s'assouplisse, et ça, le yoga, justement, est la méthode idéale, puisqu'elle va ajuster en fonction des possibilités, et deuxièmement, on se réapproprie son corps, on a moins peur de bouger, et on rentre dans un cercle vertueux.
Docteur Jocelyne Borel Kuhner, est-ce que le yoga permet de prévenir la réapparition des maux de dos?
Bien évidemment, mais à condition de pratiquer quotidiennement, ou tout du moins régulièrement. C'est une hygiène de vie qui a été acquise historiquement quand on commence à débuter le yoga, avec surtout quelque chose qui apparaît quand on commence à pratiquer, quand on teste soi-même dans son corps les postures et les respirations, c'est-à-dire cette sensation de fluidité dont on a parlé tout à l'heure, de bien-être, une sensation même fort agréable, voire presque parfois une sensation comme on a fait un marathon de 2 heures, mais sans faire un marathon de 2 heures. Donc, de ce fait, les élèves, les patients, les personnes qui ont mal au dos ou qui ont d'autres douleurs ont tendance à auto-entretenir cette sensation de manière assez simple.
Alors la revue scientifique Cochrane a confirmé cette année qu'on assiste à une réduction de la douleur et une amélioration des fonctions du dos au bout de 3 mois de pratique régulière du yoga. De façon plus générale, docteur Coudron, dans la pratique du yoga, il est important d'accepter la douleur.
Alors ça fait partie des éléments fondamentaux. Je voudrais juste encore revenir sur une idée reçue. C'est justement que le yoga n'est bon que pour les problèmes psychiques, psychologiques et fonctionnels. On vient de voir avec la lombalgie chronique qu'on n'est pas dans quelque chose de fonctionnel, on n'est pas dans quelque chose de psychique, on est dans du dur, on est dans de l'ostéo-articulaire et on a un bénéfice. Alors l'acceptation, ça fait partie d'un des éléments fondamentaux.
Il y a un côté essentiel.
Alors non, pas du tout. Et ça, souvent, c'est mal compris. L'acceptation, c'est simplement savoir qu'il y a une situation et c'est l'accepter sans émotionnellement être chargé par rapport à ce problème. C'est reconnaître qu'il y a une difficulté pour pouvoir mieux la traiter. Et c'est très important parce que l'acceptation avec une pathologie est directement corrélée à l'intensité de la douleur.
Isabelle Morin-Larbé.
Oui, je dirais même l'accueil plutôt que l'acceptation, encore plus loin. C'est-à-dire que la douleur, elle est là. Je ne vais pas la gommer, je ne vais pas la supprimer. Et tout le travail du yoga, c'est de passer au travers de, c'est-à-dire pas éviter l'obstacle. Je le rencontre, cet obstacle. C'est là, ça fait partie de moi. Il y a sûrement un abcès, l'absus est intéressant, un aspect physique, mais parfois aussi psychologique. C'est pour ça psychosomatique qui marche ensemble. Donc d'être face à une situation, corps-esprit, et je vais accepter, accueillir cette souffrance pour la traverser. Et je ne la nie pas, je ne suis pas dans le déni.
Docteur Jocelyne Borel-Kuhner.
Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il ne faut pas être dans le déni, mais d'une manière générale aussi, lorsqu'on a un corps très douloureux en souffrance, avec des longues maladies ou des maladies chroniques très sévères, beaucoup plus qu'une lombalgie, on va dire, simple, commune, comme on appelle dans notre jargon médical, il est important aussi de bien écouter la douleur du patient. Et effectivement, ne pas la nier, mais surtout lui dire, bon, votre douleur, elle est là, mais allez chercher la sensation agréable. Arrêtons de parler de la douleur aussi, ça c'est important. C'est pas la nier, mais par l'intermédiaire du corps, allez chercher la sensation agréable, ce qui est important pour avancer dans son corps. Et c'est pas forcément que psychosomatique, la sensation agréable. Enfin, c'est pas que psychologique, c'est somatique. Des gens douloureux, ils ont perdu, ou en souffrance aiguë, ils ont perdu, le corps n'est que souffrance. Donc, se réapproprier un corps un petit peu joyeux qu'ils ne savent plus écouter, c'est très important pour l'action, on va dire, bénéfique du yoga.
Et rappelons que soma, c'est le corps. Aline Perraudin, question récurrente par courriel. Le yoga permet-il d'apaiser les troubles digestifs ?
Alors oui, là, il y a eu encore beaucoup d'études qui ont montré notamment que ça permettait de réduire les symptômes du côlon irritable. Et alors pourquoi ? Parce que comme l'ont dit les médecins, ça agit à la fois sur le stress, les émotions, mais aussi il y a un aspect physiologique. Les postures permettent de, par exemple, masser les organes digestifs. On pratique la respiration abdominale qui est aussi bénéfique. Donc il y a vraiment des études qui ont montré les bienfaits.
Docteur Coudron ?
Oui, tout à fait. Donc là, vraiment, on le voit dans le quotidien. Et la pratique du yoga avec sa dimension corporelle va pouvoir masser l'abdomen, va pouvoir, avec des postures inversées également, modifier la forme du transit. Donc on a une amélioration nette sur les symptômes que l'on voit dans ces troubles chroniques qui sont douleurs, ballonnements et troubles du transit.
Une posture simple en cas de troubles de l'intestin, de constipation par exemple.
Allongé sur le dos, respiration abdominale, inspiration les bras en arrière, expire, je ramène les cuisses sur le ventre, je reste, je masse tranquillement, j'allonge les jambes, les bras en arrière et je reviens, je me détends.
Question.
Vous voyez, c'est pas très compliqué.
Non, c'est très
simple.
Ça
nécessite pas des souplesses extraordinaires, ça ne nécessite pas des acrobaties extraordinaires.
Est-il vrai que la pratique régulière du yoga permet de faire baisser l'hypertension, évidemment en accompagnement de mesures d'hygiène et de mesures diététiques, Aline Perraudin?
Oui, là encore, des études ont montré que ça permettait de réduire légèrement la tension, la pression artérielle. Alors, il y a plein d'explications. Là encore, ça agit sur la circulation sanguine, le yoga, les postures, ça permet une meilleure élasticité des vaisseaux. Et puis, il y a aussi tout l'aspect, peut-être de faire du yoga permet de mieux dormir. Et on sait que un mauvais sommeil nuit à une bonne pression artérielle. Et il y a l'aspect aussi stress, anxiété.
Et puis des expériences ont montré qu'au bout de 3 mois de pratique, la pression artérielle du groupe ayant fait du yoga baisse. On passe par exemple de 145-95 à 140-90, docteur Coudron, vous confirmez ?
Oui, alors effectivement, et on a même des fois des résultats beaucoup plus rapides, en 15 jours, associés à une alimentation adaptée, on a déjà des modifications qui varient d'un demi à un point complet, c'est vraiment beaucoup.
Docteur Jocelyne Borel-Cunner.
Oui, les effets sont assez rapides, ça fait même partie des effets entre guillemets presque secondaires du yoga qu'il faut analyser et en tout cas suivre lorsque l'on prend des patients qui sont multimédicamentés par exemple et à qui l'on fait faire du yoga pour ne pas qu'il y ait justement de chute de tension trop rapide alors qu'ils continuent leur traitement hypertenseur.
Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Vous appelez d'Aix-les-Bains, bienvenue.
Tout à fait. Je suis en cure à Aix-les-Bains actuellement, donc je suis originaire de Bourg-Saint-Maurice.
Tout se passe bien au niveau de la cure ?
Eh bien, une cure contre l'arthrose. Contre l'arthrose.
Bon. Question très précise.
Oui.
Allez-y, alors, on écoute votre question.
La question est la suivante. Donc, à partir de 70 ans, j'ai 72 ans, j'aimerais savoir s'il existe un apprentissage spécifique qui serait donc adapté, je suis sportif, adapté à notre situation de gens donc qui ont de l'arthrose pour permettre justement de pouvoir pratiquer le yoga avec une certaine sérénité et sans faire d'imprudence.
Isabelle Morin-Larbé.
Oui, tout à fait. Louis, vous pouvez trouver un professeur de yoga qui va, s'il est formé correctement, c'est-à-dire il faut au moins 4 ans de formation sérieuse. Toute cette émission montre à quel point le yoga est puissant, donc on ne fait pas n'importe quoi, ça s'étudie. Et évidemment, vous pouvez travailler au contraire, l'arthrose, le yoga est tout à fait indiqué, à condition effectivement que vous soyez accompagné dans votre pratique par quelqu'un de compétent. Et ça a des effets tout à fait intéressants pour vous, vraiment.
Merci beaucoup Louis et je vous souhaite une bonne fin de cure à Aix-les-Bains. Merci d'avoir appelé. Une question très précise, tout à l'heure il y a une auditrice qui a évoqué la posture de la vague. C'est quoi la posture de la vague?
Alors là, ce qu'elle semblait dire, c'était plutôt d'accompagner avec la pensée, comme une vague, la respiration dans le corps. C'est-à-dire j'imagine, j'inspire de haut en bas, j'imagine comme une vague l'air qui descend du sommet du crâne vers les orteils et elle expire, qui remonte. Voilà. Après il y a d'autres exercices de vague qui sont des mobilisations en souplesse du rachis, mais il y a une multitude de noms qui sont donnés effectivement à l'ensemble de ces milliers d'exercices qu'on peut retrouver.
Je sens qu'on va consacrer d'autres émissions aux bienfaits du yoga. Isabelle Morin-Larbi, juste un mot de conclusion. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites à propos du yoga. Vous dites que c'est une philosophie, une pratique qui renforce d'abord le désir de vie.
Oui, complètement. Ça rend très heureux et très en relation avec les autres. C'est un épanouissement.
Merci beaucoup Lionel Coudron, Jocelyne Borel-Cunner et Isabelle Morin-Larbé. Vous pourrez retrouver toutes les informations et la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Inter.
Time you talk your money up while it's living in a coal mine.